Well, first of all, I do want to accept responsibility and say sorry.
Buonasera a tutti. Dunque vi leggo la composizione del nuovo governo.
I wanted to act to help people with their energy bills.
Ministro dell'Economia e delle Finanze, onorevole Giancarlo Giorgetti.
We went too far and too fast.
Vi ringrazio e vi auguro buona serata e buon lavoro.
L'une qui s'installe, Giorgia Meloni, la première ministre en Italie, et l'autre qui part, Liz Truss, au Royaume-Uni. Une pensée ce matin pour les biographes de l'ex-prime minister, dont le livre doit sortir le 8 décembre, un mois et demi après la démission. Aïe! Ce qui a fait exploser l'ultra-libéral Truss en plein vol, c'est son mini-budget présenté fin septembre. Des milliards de baisses d'impôts pour les riches et puis du soutien aux ménages face aux factures d'électricité. Mais pour tout cela, il fallait emprunter alors que les taux grimpent. Mauvaise politique au mauvais moment. Liz Truss se voyait dame de fer. Les investisseurs l'ont brutalement fait plier. Alors le magazine des milieux d'affaires, The Economist, titre cette semaine cruellement « Welcome to Britaly ». Bienvenue en Britaly, un pays de faible croissance, d'instabilité politique et de soumission au marché. C'était leur description de l'Italie. C'est désormais aussi, à leurs yeux, celle de la sixième puissance économique mondiale qui dégringole. Les débiteurs sont dépendants de leurs créditeurs qui ne regardent qu'une chose, la capacité à rembourser. Petite piqûre de rappel. Mais alors, quand même, à quel moment les politiques ne peuvent-ils plus gouverner comme ils l'entendent ? Aujourd'hui, nombre de dirigeants se demandent si le Royaume-Uni n'est pas le canari dans la mine, annonciateur de mésaventures pour d'autres. Et en Italie, Giorgia Meloni, elle l'a bien compris, elle a nommé à l'économie un ministre capable de rassurer les investisseurs, Giancarlo Giorgetti, une extrême droite pro-européenne et pro-Mario Draghi. Super Mario qui, il y a 10 ans, avec son quoi qu'il en coûte pour l'euro, avait justement réussi à dompter les marchés.
On n'arrête pas l'écho. Alexandra Ben Saïd sur France Inter.
Bienvenue dans On n'arrête pas l'écho que j'ai préparé avec Valentin Pérez. Céline Hila est notre réalisatrice et à la technique, Loïc Frapsos, Antoine Teboul et Maxime Goudard nous accompagnent. L'invité de ce samedi 22 octobre est un des grands penseurs du futur et un conseiller de haut vol auprès de la Commission européenne comme de la Chine et du Sénat américain. C'est l'inventeur du concept de troisième révolution industrielle qu'il est déjà venu expliquer à On n'arrête pas l'écho. Et c'est bien parce qu'on commence à voir dans la réalité ce qu'il nous décrivait alors que je suis heureuse d'annoncer ce matin Jérémy Rifkin avec nous pour son nouvel ouvrage « L'âge de la résilience ». L'interview, ça sera vers 9h45. Comment s'adapter au changement climatique? Jusqu'où remettre en question nos fondamentaux sur la croissance, le profit? Comment réinventer nos entreprises? Et puis, la croissance sobre, est-ce que ça existe? Notre reporter Rémi Boss-Saron a rencontré des pionniers à la pointe de l'action et de la réflexion sur le sujet. Vous entendrez son reportage. À la pointe, elle l'est chaque semaine sur vos questions de vie au boulot. Bonjour Sandrine Foulon.
Bonjour Alexandra.
Sandrine, ce samedi, une question de Grégory sur la pénibilité au travail.
Oui, Grégory porte des charges lourdes, il travaille en chambre froide. Et pourtant, son compte pénibilité est toujours à zéro. Il veut savoir si c'est normal.
La réponse, Grégory, ça sera comme d'habitude, juste avant les infos de 10h. Et le débat, c'est tout de suite avec Anne-Sophie Le Chevalier de Libération. Hello, bienvenue Anne-Sophie.
Bonjour Alexandra, bonjour à tous.
Et Jean-Marc Daniel, professeur à l'ESCP. Bonjour Jean-Marc.
Bonjour.
Jean-Marc qui s'intéresse comme moi aux mésaventures de Liz Truss, mais peut-être qu'on n'a pas tout à fait la même grille de lecture.
Oui, pas tout à fait. Non, je suis d'accord sur l'essentiel. Je ferais quand même deux remarques par rapport à ce que vous avez dit. La première, c'est le terme ultralibéral. Je rappelle que le chancelier d'Échiquier, quand il prendait une petite mallette, là, cette petite mallette s'appelle la mallette de Gladstone. Et Gladstone, c'était un chancelier de l'Échiquier, puis un premier ministre du 19e siècle, qui avait comme principe absolu d'équilibrer le budget. Et donc lui, il était leader du parti libéral. Donc un libéral, ça équilibre le budget, qu'il soit néo, ultra ou simplement libéral. Et la deuxième remarque que je ferais, c'est que il y a un des problèmes du Royaume-Uni qui est essentiellement son déficit de balance des paiements courants. Et c'est un problème que n'avait pas Margaret Thatcher. Quand on parle de la Dame de Fer, la force de la Dame de Fer, c'est qu'elle est arrivée au moment du deuxième choc pétrolier. Or, le Royaume-Uni, à l'époque, était décrit comme une pétroménarchie. pétromonarchie. Pourquoi ? Parce qu'il y avait le pétrole dans la mer du Nord qui fait qu'effectivement, la balance des paiements courants du Royaume-Uni était en excédent. Et puis à partir du contre-choc pétrolier, en 86, les comptes extérieurs britanniques sont rentrés dans le rouge. Et depuis, le Royaume-Uni a été incapable de redresser la situation.
Et oui, Liz Truss, post-énergie fossile, là, elle n'aura pas cette chance.
Hein. Et non, elle est dans une situation où effectivement, la source naturelle d'équilibre extérieur du Royaume-Uni, qui était d'abord le charbon puis le pétrole, cette source a disparu.
Un petit éclairage de Jean-Marc Daniel. Alors le débat ce matin, Jean-Marc, vous le faites avec Anne-Sophie. Débat sur l'actualité française et la question de fond derrière les manifestations, derrière les mouvements sociaux, c'est celle des salaires. Et si, pour éviter justement ces oppositions, ces blocages, ces protestations, comme le demandent des syndicats, des représentants politiques, eh bien on indexait les salaires sur l'inflation. C'est le débat.
Que peut faire le gouvernement pour augmenter les salaires en période d'inflation ?
Pourquoi ne pas indexer les salaires sur l'inflation afin de garder un niveau de vie égal ?
Alexis Antonioli, délégué CGT chez Total Energy.
Ce qu'on parle finalement, nous, en se basant sur l'inflation, que ce soit chez Total ou chez Exxon, il y a un mot pour ça, l'indexation des salaires sur l'inflation. Pourquoi aujourd'hui en France, on n'aurait pas ça ? Pourquoi tous les ans, on doit, nous, salariés, se battre pour maintenir nos niveaux de vie ?
En moyenne, à peu près, on sera à 5% d'inflation en 2022.
Céline Antonin, économiste à l'OFCE.
Ce qui se passe, c'est que cette inflation, elle va effectivement faire perdre du pouvoir d'achat, puisque du coup, le salaire réel va être rogné, donc le pouvoir d'achat va être grignoté. Mais le problème et le risque, c'est qu'en ayant des revalorisations salariales, ça augmente les coûts de production de l'entreprise. Donc l'entreprise va devoir soit baisser ses marges, soit répercuter sur les prix à la consommation.
Vous avez vu combien ils augmentent les prix ?
François Ruffin.
Vous avez vu combien ils augmentent dans les supermarchés ?
Député La France Insoumise.
Mais comment on peut aujourd'hui oser parler, parce que c'est comme ça qu'on en parle, de spirale inflationniste quand il s'agit d'augmenter les salaires des agents d'entretien, des accompagnantes d'enfants en situation de handicap, de Cindy Pompiste ? Et qu'en revanche, quand les dividendes du CAC 40 explosent dans tous les sens, il n'y a pas du tout là de spirale inflationniste. Peut imaginer que l'indexation des salaires sur l'inflation se fasse jusqu'à hauteur de 2000 euros, 2500 euros, jusqu'au niveau du salaire médian ou du salaire moyen.
Vous voyez les chefs d'entreprise. Un, ils sont dans l'incertitude totale à un mois.
Raymond Soubi, président d'Alixio, ancien conseiller social de Nicolas Sarkozy.
Deux, ils sont quand même dans la très grande inquiétude de l'année 2023. Donc, si on met en place des mécanismes, soit d'indexation des salaires sur les prix, soit même par lesquels les salaires suivent trop les prix, à ce moment-là, on accentue l'inflation et on rend plus difficile la vie des entreprises au moment où celles-ci ont justement des problèmes d'approvisionnement, ont des hausses de prix.
Elisabeth Borne, Première ministre.
Vous le savez, notre pays dispose d'un système unique au monde de revalorisation automatique du SMIC. Le SMIC a augmenté de 8% en un an, c'est-à-dire plus que l'inflation qui est autour de 6%. Cette augmentation doit conduire à une revalorisation des grilles salariales. La dynamique est lancée, mais au-delà, je l'ai dit, je le crois et je le répète, les entreprises qui le peuvent doivent augmenter les salaires.
Anne-Sophie Le Chevalier, je me tourne vers vous. Quel est le problème avec les salaires en France ? On fait la photo.
Alors le problème, il remonte déjà à plusieurs années parce que les salaires du secteur privé avaient pris du retard par rapport à la productivité. Et puis là, le problème, il devient criant et... Est-ce qu'on parle d'austérité ? Je ne sais pas, mais en tout cas, il devient criant depuis que l'inflation a fait son retour. Si on fait un petit retour en arrière, l'histoire de ces derniers mois, c'est quoi ? C'est qu'au printemps 2021, on a un choc d'offres, on a des difficultés d'approvisionnement, les prix augmentent, tout le monde pense que c'est passager, que c'est lié à cette surchauffe, que ça sera temporaire, donc les salaires ne suivent pas, les entreprises se disent que ça va s'arrêter et que les salariés supporteront le choc. Le gouvernement à l'automne se dit, je vais quand même aider à supporter le choc et met en place les premiers boucliers. Et puis on est encore dans l'indécision jusqu'à ce qu'il y ait la guerre en Ukraine, et là on voit que l'inflation elle va durer, combien de temps, ça personne ne le sait vraiment, mais que du coup la situation est de moins en moins tenable. Et en fait, si on regarde l'évolution des salaires par rapport à l'inflation, ils ont évolué de 3,1% quand l'inflation augmentait de 6%. Et donc la DARES, la direction des statistiques au ministère du Travail, conclut logiquement au fait que sur un an et en euros constants, c'est-à-dire corrigé de l'inflation, le salaire mensuel de base a diminué de 2,9%.
Ça veut dire que les Français, les salariés, perdent du pouvoir d'achat. Ça veut dire que le salaire réel est en train de baisser.
C'est ça. Et l'État.
Jean-Marc, vous faites la même photo ?
La photo est à peu près conforme.
C'est difficile de dire non.
Oui, ouais. C'est difficile de dire non. Le véritable problème, c'est comment corriger cette photo. Et je pense que il y a dans la photo, il y a trois éléments supplémentaires qu'il faut mettre en avant. Le premier élément, c'est que en 2022, le PIB de la France aurait été pratiquement celui de 2019. Avec donc 0,8% d'augmentation, avec une ponction sur ce PIB qui est faite par le choc pétrolier, ou choc pétrolier, le choc énergétique et tout ça, d'environ 60 à 70 milliards d'euros. Donc le revenu potentiellement distribuable aux Français a diminué depuis 2019. Et donc, si on maintient ce revenu, sous quelque forme que ce soit, indexation, prime, versement de baisse d'impôts, versement d'une somme par l'État, cette somme-là sera ponctionnée sur l'avenir. C'est-à-dire, si on ponctionne sur les entreprises, on ponctionne sur les profits, l'investissement, puisque les profits d'aujourd'hui, c'est les investissements de demain et les emplois d'après-demain. Si on ponctionne sur l'État au travers de la dette publique, c'est les salariés et la génération d'après qui subira les conséquences. Le deuxième élément dans la photo, c'est qu'il y a quand même des salaires qui sont indexés. C'est-à-dire que, on l'a écouté, Madame Borne l'a dit, le SMIC est indexé, avec comme conséquence que ça rebondit sur la grille la plus basse des salaires. C'est ce que dit d'ailleurs Ruffin dit il faut augmenter les salaires jusqu'à 2500 euros. Mais effectivement, quand on regarde mécaniquement, le fait d'augmenter le SMIC a comme conséquence d'augmenter effectivement les salaires pratiquement jusqu'à 2500 euros. Et la troisième remarque que je ferai, c'est en lien avec la première, c'est le prédécesseur de M. Ruffin qui s'appelait Maurice Thorez, disait en économie, il faut produire d'abord, revendiquer ensuite. Je pense qu'un des enjeux d'un pays sur lequel on fait une ponction en ce moment, c'est effectivement de le remettre au travail. Plutôt que d'augmenter les salaires, il faut augmenter les salaires parce qu'on a augmenté la quantité de travail. On l'a dit, la productivité, en fait, elle n'est pas au rendez-vous. Et donc, si on veut augmenter les salaires, on n'a pas d'autre solution que d'augmenter la quantité de travail.
Anne-Sophie Le Chevalier.
Moi, je pense que ça vaut le coup de revenir sur le premier point, notamment sur la question du PIB, parce que pendant que ce PIB était stable, en revanche, par exemple, les distributions de dividendes aux actionnaires ont augmenté, même parfois battu des records. Et donc, ça pose encore le problème de la valeur, du partage de la valeur ajoutée. C'est comment on distribue cette valeur ajoutée entre comment les entreprises distribuent, entre les salaires, entre les investissements dont vous parliez, Jean-Marc, et entre les actionnaires. Et c'est une question qui est récurrente dans le débat depuis des années et des années. De Gaulle en parlait, il a même mis en place l'intéressement et la participation. Il cherchait, j'ai retrouvé à l'époque, une troisième voie entre le capitalisme qui, je cite, porte en lui-même les motifs d'une insatisfaction massive et perpétuelle, et le communisme qui comporte une tyrannie odieuse imposée à la personne et plonge la vie dans l'atmosphère lugubre du totalitarisme. Mmh. Et ensuite, il y a eu Nicolas Sarkozy qui, au moment de la crise financière, président de la République, développe alors l'idée des trois tiers dans la répartition des profits. Un tiers des bénéfices doit aller aux actionnaires, un autre tiers aux salariés et un tiers au développement de l'entreprise. Et assez rapidement, une certaine Christine Lagarde, qui était à l'époque sa ministre de l'économie, dit « Oh ben non, on peut pas faire ça, on peut pas avoir de règles mathématiques, car chaque entreprise est une histoire individuelle. » Et ça nous rappelle un peu ce qu'on entend aujourd'hui, que chaque situation d'entreprise est individuelle, donc on peut pas obliger toutes les entreprises à augmenter les salaires. Et moi j'ai l'impression que c'est surtout une excuse pour certaines pour ne rien faire.
Jean-Marc, est-ce qu'il y a un problème de partage de la valeur ajoutée dans les entreprises, et tout au moins dans certaines, nous dit Anne-Sophie, avec beaucoup de nuances?
Oui, absolument. Non, je pense qu'il y a, par rapport à ce qu'elle vient de dire, qui est assez fondé sur le plan historique. En fait, le général de Gaulle, effectivement, la participation.
Vous avez apprécié, bien sûr.
Oui, sauf qu'il a perdu un référendum sur ce sujet. Je rappelle qu'en 69, c'était le sujet qui était soumis à référendum. Vous me direz que les Français n'ont pas véritablement voté sur le sujet du référendum, mais sur
je
le sujet de son
pas.
Départ.
Mais voilà. Enfin, toujours pareil avec les référendums.
Mais enfin, factuellement, c'était ce sujet qui a été rejeté. Alors, sur le partage. D'abord, sur les profits. Quand on regarde la structure des profits, beaucoup de ces profits sont liés à l'activité extérieure de ces entreprises. Une des forces de la France, c'est qu'elle est effectivement des entreprises et des grandes entreprises qui ont beaucoup investi à l'étranger et qui en retirent les bénéfices à l'heure actuelle. C'est d'ailleurs, quand vous regardez le déficit de notre balance commerciale, on a 150 milliards d'euros de déficit, et en balance des paiements courants, c'est-à-dire compte tenu du fait que les entreprises rapatrient une partie de ces profits, on descend à 60, 50, 60 milliards de déficit. Donc, c'est plutôt une bonne opération, sauf que, je prends le cas de Total qui a été dans l'actualité, Total ne fait pas de bénéfices en France. Total fait des bénéfices à l'étranger. Et donc, on peut se poser la question de savoir quelle est la légitimité des salariés de Total à bénéficier de l'action de Total et de l'activité de salariés qui sont dans d'autres pays. Donc, je pense que, effectivement, les profits Ces profits ne sont pas issus immédiatement, pour certains et même pour la plupart, ne sont pas issus immédiatement de l'action réalisée sur le territoire national, et donc annoncer qu'on va les distribuer peut-être aux salariés est un peu rapide. En outre, les dividendes en tant que tels, ils sont pas perdus. Les dividendes, justement, ils sont réinvestis. Et on revient sur les profits d'aujourd'hui, sont les investissements de demain par l'intermédiaire des dividendes et les emplois d'après-demain.
Anne-Sophie n'a pas l'air d'accord.
Puisque vous parlez des profits, je pense que c'est quand même important de reparler de l'indexation. Est-ce que c'est possible ou pas?
Oui, quand même. Il nous reste deux minutes pour conclure là-dessus.
Voilà, au-delà du fait que les salariés totaux sont des salariés totaux, donc ont aussi le droit de profiter de la valeur produite. Donc sur les salaires, je pense qu'il y a un autre point dont vous parliez, Jean-Marc, qui était la question du SMIC. Heureusement que le gouvernement n'a pas suivi les recommandations des comités d'experts du SMIC qui, chaque année, demandent à ce que cette indexation s'arrête. Parce que ils demandaient à qu'il n'y ait plus d'indexation sur l'inflation dans chacun de leurs rapports. Ça n'a jamais été suivi. Heureusement, parce que ça protège les plus fragiles exactement aujourd'hui. Et je rappelle, c'est 2 millions de personnes qui touchent le SMIC et qui sont concernées par cette indexation. C'est souvent des salariés à temps partiel et c'est plus de femmes que la moyenne des autres salariés. Et c'est d'ailleurs, en partie, les travailleurs de seconde ligne qu'on applaudissait il y a quelques mois pendant le Covid. Et donc, par rapport à l'indexation du SMIC, sur l'inflation, ce qui peut être la question peut se poser, parce que le problème, c'est que le SMIC, donc ça c'est bon, c'est indexé sur l'inflation, et ce n'est pas le cas, ça s'arrête quand on est payé 10 ou 30% au-dessus du SMIC, ça ne marche plus, les salaires ne progressent
pas.
Or, c'est ceux qui sont les plus touchés par l'inflation, justement, selon les calculs, par exemple, de l'OFCE. Donc peut-être que l'idée de Ruffin, c'est une bonne idée.
Alors le mot de la fin,
oui,
Jean-Marc, il nous reste
juste une remarque très simple, le SMIC est indexé sur l'inflation, ce que dit la Commission c'est n'allez pas au-delà, mitez-vous.
Non, elle dit désindexer.
Et elle dit, si vous désindexez, vous favoriserez le retour à l'emploi. Elle dit, il y a quand même aussi un impact.
Elle dit désindexer pour laisser les entreprises régler le sujet. On voit bien que ça ne marche pas.
Ça marche ailleurs quand même, indexer les salaires sur l'inflation.
Oui et non, parce que la plupart du temps, quand vous regardez sur long terme, ce qui fait le salaire, c'est l'efficacité du travail. Et ce n'est ni les réglementations, ni les grèves et les mouvements sociaux à moyen et long terme, ce qui fait l'évolution des salaires, c'est effectivement, on l'a dit, la productivité, c'est-à-dire l'efficacité du travail. Et donc, plutôt que de prendre des décisions arbitraires, il faut laisser les entreprises qui mesurent, elles, l'efficacité du travail gérer le problème des salaires.
Allez.
Et c'est toujours appliqué en Belgique et au Luxembourg, ça vaut le coup de le rappeler.
Oui, deux pays très différents, Belgique et Luxembourg.
Oui, l'OCDE leur demande régulièrement de revoir ça. Parce qu'en France, on l'a abandonné sous la gauche, c'est Delors. En Italie, sous la gauche, c'est Craxi. Et en Royaume-Uni, sous la droite, c'était Margaret Thatcher.
Jean-Marc Daniel et Anne-Sophie Le Chevalier, les débatteurs de ce samedi 22 octobre. Musique. 9h31 sur France Inter, le discours de la méthode sur la planification énergétique, climatique. C'était hier une feuille de route présentée par la Première Ministre, Elisabeth Borne. L'objectif, c'est de réduire de plus de moitié les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Alors, sur l'urgence climatique, la prise de conscience, elle a eu lieu. Mais ensuite, concrètement, comment faire? Quel chemin vont nous mener à la neutralité carbone qui, elle, est prévue pour 2050? Dans 10 minutes, interview de Jeremy Rifkin, le célèbre prospectiviste. Son nouvel ouvrage, L'âge de la résilience, paraît aux édition Les Liens qui Libèrent. Mais avant cela, comme d'habitude, nous sortons du studio avec notre reporter Rémi Bossaron, qui a rencontré des pionniers, des acteurs, des théoriciens qui défrichent déjà le terrain, qui explorent des façons de réaligner l'économie avec la nature. Tiens, on va pas aller loin de la maison de la radio, nous allons aller vers Bastille, à Paris. Prenez le PDG de l'entreprise de services numériques Norcis. Ils font des logiciels, en gros. Sylvain Brezard a imaginé un modèle de développement inspiré de la permaculture. Il appelle ça sa perma-entreprise.
Là, vous êtes dans des anciens ateliers qui, un siècle, fabriquaient des meubles, des lustres pour la rue Saint-Antoine à Paris. Donc, on va rentrer dans ces locaux. Rentrons. On a quelqu'un qui nous ouvre la porte, c'est magnifique. Voilà, donc là vous êtes dans le hall, vous voyez aussi des cœurs, ce sont des sculptures de canettes. Pour les 20 ans de Norcis, on a essayé de décliner notre vision, vous voyez c'est les trois principes éthiques, prendre soin de la planète, il est vert, prendre soin des femmes et des hommes, il est rouge, fixer des limites, redistribuer les richesses, il est bleu. Voilà, des cœurs qui nous accueillent et qui normalement émettent une belle lumière énergique. derrière le modèle Perm Entreprise, on a un enjeu, c'est de régénérer les énergies positives des collabs en permanence, en s'appuyant sur des leviers de qualité de vie. Donc on expérimente en ce moment, on a expérimenté un bain de forêt.
Qu'est-ce que c'est ça?
Alors un bain de forêt, c'est de dire, voilà, on va passer 2-3 heures dans une forêt. Et on vit, on ressent. Pour l'entreprise, on pourrait se dire, mais des demi-journées comme ça, donc vous ne travaillez pas, vous ne facturez pas. Nous, on a une autre vision de choses, on considère que c'est des moments d'investissement pour mieux travailler derrière et peut-être être plus efficace.
Dans ton permaculture, on pense aussi à la protection de la terre, de ses ressources. Comment ça se traduit concrètement dans une perma-entreprise?
Alors, l'enjeu numéro un, c'est de baisser au maximum les émissions de carbone. Nous, on a réduit de 40% nos émissions rien que par le télétravail. Mais en complément de ça, il y a des tas de choses à faire. Par exemple, on a voté le fait de ne plus prendre l'avion si on peut se déplacer par un autre moyen de locomotion en moins de 6 heures. Le trajet le plus contraignant, c'est Paris-Sophia-Antipolis, puisqu'on a une agence là-bas. Le fait qu'une grande majorité ait voté, ça montre que chacun a envie de faire ces efforts-là. On a développé un logiciel qui fait que chaque collab peut avoir son bilan carbone personnel et professionnel. Donc tous les jours, à la limite, il peut voir combien il a émis de CO2. Ça a poussé certains, de temps en temps, faut rester modeste, à dire « tiens, aujourd'hui, je prends pas ma voiture, je prends mon vélo, ça va faire 20 km, mais je vais le faire ». Malgré tout, on a beau faire tout pour réduire les émissions, il en reste. Donc, on finance des puits de carbone. Financer des puits de carbone, c'est par exemple dire, tiens, il y a une ferme, elle peut vraiment réduire fortement ses émissions en changeant de système de production, en changeant ses pratiques. Mais elle n'a pas les moyens financiers. Mais on peut la soutenir en usant des dons financiers. Voilà. Et là, on va lui permettre de réduire ses émissions de carbone et quelque part compenser celles qu'on émet encore. Si j'ai une satisfaction, c'est qu'aujourd'hui, on a fait évoluer les cultures commerciales. Je vous donne un exemple. Une entreprise nous appelle, voilà, on voudrait travailler avec vous sur la technologie XYZ. L'agence a dit non, parce que c'est une entreprise qui ne paye pas ses impôts en France. Voilà, on ne veut plus travailler avec des entreprises comme ça. On ne veut plus non plus faire travailler des fournisseurs qui sont en antiphase avec les trois principes éthiques, prendre soin des femmes et des hommes, préserver la planète, etc. Se fixer des limites, ça questionne justement, ça pousse à plus de cohérence.
Et ça veut dire renoncer éventuellement aussi à un contrat?
Effectivement, ça veut dire potentiellement renoncer à du chiffre d'affaires, à un contrat.
Renoncer à un contrat, mais continuer à faire du chiffre d'affaires. Aligner écologie et économie. Sylvain Brezard est ce qu'on appelle un patron militant, à la fois patron de son entreprise et président du conseil d'administration de Greenpeace France. Nous sommes d'accord, ils ne sont pas nombreux comme lui, mais justement, fait-il des émules, Sylvain Brezard? D'autres patrons se lancent-ils dans des démarches plus radicales que la simple RSE, responsabilité sociétale des entreprises? Et puis sur le fond, tout ça pose une question. Peut-on vraiment croire à la croissance sobre? Voilà. Et toutes ces questions, ce sont celles de notre reporter Rémi Bossaron, que l'on retrouve donc avec Sylvain Brezard dans sa perma-entreprise.
Il y a besoin de quelque chose de nouveau, ça c'est sûr. Encore une fois, 20 ans de petites pratiques de responsabilité sociale d'entreprise, ça se renouvelle pas beaucoup. Là, on amène une idée nouvelle. Voilà un modèle qui va permettre de développer l'entreprise, de la faire réussir, mais en agissant aussi bien sur des problématiques sociales, sociétales, environnementales. En partant de ce modèle-là, et pas de la maximisation du profit, on va créer un cercle vertueux. Et en plus, c'est un modèle de développement. Donc là, on a plus d'écoute. Donc on a créé l'école, la perma-entreprise, pour former des personnes qui ont envie de porter cette vision-là, ce projet-là dans leur entreprise ou des cabinets de conseil. Aujourd'hui, il y a 120 entreprises qui sont engagées, certaines qui ont abouti à un projet, des entreprises de toute taille, moins de 10 salariés, hein, sans problème, de 25, je pense à des entreprises en donnant les chiffres, de 100, de 250, de 650 Norcis. Il y en a qui sont engagés, ils sont 2500. Vous voyez, PME et entreprises de taille intermédiaire, il y a des entreprises qui sont dans le monde du BTP, par exemple, il y a des entreprises qui sont dans le monde tertiaire comme les nôtres. C'est assez varié. Je vous assure qu'elles sont plus performantes aujourd'hui qu'avant-hier. Et plus on sera nombreux à démontrer ça, plus on va embarquer. Le terrain fertile, c'est les entreprises familiales. Là, c'est clair, parce que y a un autre gap. Les grands groupes, regardez, les CAC 40 sont détenus par des fonds étrangers en majorité. Plus de 50% du capital, ce sont des fonds étrangers, avec des personnes qui sont pas du tout attachées à l'entreprise. Elles sont attachées à leur bilan, et à leurs chiffres trimestriels et à leurs dividendes. Donc effectivement, ce monde-là, si on arrive à le faire bouger, il faudra du temps.
Alors comment convaincre ceux qui veulent maximiser leurs profits de s'intéresser eux aussi à un modèle économique respectueux de l'environnement? C'est l'une des questions sur lesquelles travaille l'Institut de l'économie pour le climat, qui m'accueille dans ses bureaux parisiens. J'ai rendez-vous avec
Benoît Luguet, je suis le directeur général de l'Institut de l'économie pour le climat, qui est une association experte du financement de la transition écologique. Et en particulier, on s'intéresse au financement de la transition vers une économie décarbonée et adaptée au changement climatique.
Selon cet économiste, pour que les acteurs financiers suivent le mouvement de la transition écologique, c'est à l'État de montrer le chemin et de montrer l'exemple.
Pour être très clair, la finance finira toujours par financer l'économie réelle. Ce qui existe. Donc le plan A, c'est de transformer l'économie réelle, à grands coups de normes, de fiscalité, etc., qui sont des contraintes, mais qui créent des opportunités pour les entreprises. Typiquement, une entreprise qui produit des choses qui sont utiles pour la rénovation des logements, en fait, mettre une obligation de rénovation énergétique, ça lui crée des marchés, ça lui crée une opportunité. Et le plan B, mais qui peut être actionné en parallèle, c'est la transformation du système financier, pour s'assurer que le système financier va bien financer l'économie verte et moins financer l'économie marron, si vous me permettez ce raccourci. Là, en l'occurrence, ce sont les superviseurs financiers et les régulateurs, donc c'est vraiment l'État en l'occurrence, qui ont un rôle à jouer pour demander aux institutions financières de faire des choses qu'elles ne vont pas forcément faire spontanément. Il faut que la parole publique soit crédible. C'est-à-dire, les grands discours du genre « voilà où on va », ça, ça marche en temps de crise, ça marche en temps de guerre. Churchill, on l'écoute quand il dit « voilà, je vous promets de la sueur, du sang, des larmes », on l'écoute. Autrement, normalement, la parole politique, on l'écoute un peu moins, parce qu'on se dit « ouais, finalement, il n'y a pas trop le feu au lac ». Donc on l'écoute en temps de crise, et on l'écoute d'autant plus qu'il y a des moyens. Si on dit « voilà, tiens, je vais faire ça », et en plus, je suis tellement persuadé que moi, puissance publique, que ce soit la France, l'Europe ou autre chose, je vais vers une économie bas carbone et je mets les moyens en face. Là, si vous êtes un acteur du privé, vous dites « ok, bon, bah, moi, je peux engager mon capital vers cette transition ». Si on veut transformer nos économies, si on veut atteindre l'objectif qui est fixé par la France de neutralité carbone à horizon 2050, et en même temps d'adaptation au changement climatique, il va falloir transformer la façon dont on se loge, on se déplace, on se nourrit, et donc transformer tout ce que les économistes appellent le capital fixe qui est autour de nous, c'est-à-dire les bâtiments, les véhicules, les infrastructures qui nous entourent. Il y a des secteurs qui vont disparaître, qui vont s'amenuiser. Allez, osons un mot un peu fort, décroissance. Oui, il y a des secteurs qui vont décroître. Il y a des choses dont on aura moins besoin. Il y a d'autres secteurs qui vont croître.
La décroissance, le mot n'est donc pas tabou. Elle ne concernerait ici qu'une partie de l'activité économique, mais certains voient en elle une solution globale face aux défis climatiques. Prenez Timothée Parik, par exemple, chercheur en économie écologique à l'université de Lund, en Suède, depuis qu'il a fait paraître à la rentrée un livre qui dénonce ce qu'il appelle le mythe de la croissance. Il croule sous les invitations. Il était notamment le mois dernier devant les étudiants de HEC.
C'est la folie, hein. Vraiment, je pense que d'ici la fin de l'année, j'aurai fait la plupart des écoles de commerce, mais il y a aussi énormément d'écoles d'ingénieurs, plein d'universités, pas seulement en France. Là, j'ai dû faire déjà une vingtaine d'entreprises, j'ai fait les formations pour les hauts fonctionnaires organisées par le ministère de la Transition écologique, j'étais invité par le ministère de l'Économie sur le sujet.
Ce sujet, c'est notamment la remise en cause de l'idée de croissance sobre, un concept intenable selon lui.
Vouloir faire de la sobriété tout en maintenant l'activité économique revient à vouloir freiner tout en gardant le pied appuyé à fond sur l'accélérateur. Les taux de croissance économique que nos économies industrialisées ont connus depuis le début de la révolution industrielle sont une anormalité historique. C'est-à-dire que même dans les 2000 dernières années, il n'y avait pas de croissance économique. C'est-à-dire que la production était à peu près corrélée à l'augmentation de la population. Nous avons découvert les énergies fossiles, nous avons développé un mode de production capitaliste qui était très bien adapté à cet objectif d'accumulation, d'agitation constante, de mobilisation de chaque surplus pour investir et produire encore plus. Mais c'est un mode d'organisation économique qui n'est plus du tout adapté à notre situation, aujourd'hui au XXIe siècle, dans l'Anthropocène, où on se retrouve avec des contraintes écologiques grandissantes. Et donc aujourd'hui, oui, il va falloir déjà accepter le fait que la croissance ne reviendra pas, et ensuite se dire que c'est pas forcément une mauvaise nouvelle. De la même manière qu'on a une croissance du corps humain à l'âge enfant et adolescent, bah, au bout d'un moment, on arrête de croître, on arrête de grandir et de grossir, et on se développe intellectuellement. Moi, j'ai l'impression que on peut appliquer l'analogie à une économie. Au début, il faut construire des routes, des infrastructures, créer des entreprises. On a une énorme agitation économique. Mais après, une fois qu'on a construit ces choses-là, eh ben, c'est plus une question de maintien. de rénovation, de reproduction. C'est plus une question, ensuite, d'une économie de la qualité, du bien-être, où on vient développer des secteurs qui n'ont pas des valeurs ajoutées phénoménales, qui n'ont pas des taux de croissance phénoménaux, parce que ce n'est pas une croissance industrielle. Non, mais c'est des choses beaucoup plus subtiles, mais en même temps, c'est aussi des productions qui vont venir participer au bien-être dans l'économie sociale et solidaire, des réseaux de réciprocité, dans le milieu de l'associatif et du bénévolat. Donc là, on voit, c'est des choses, ce n'est pas considéré comme une croissance du domaine monétaire et donc ça ne vient pas se traduire par une augmentation du PIB, mais c'est tout de même un développement économique majeur. Donc aujourd'hui, il faut juste changer de mode. Se dire avant, on avait des sciences économiques et des économistes qui essayaient vraiment de tout faire pour rechercher la croissance à tout prix. Maintenant, il va falloir se dire, la phase de croissance est terminée, très bien, faisons atterrir nos économies et passons en mode développement qualitatif.
La croissance sobre existe-t-elle ? C'était le reportage de Rémi Bostard.
France Inter. On n'arrête pas l'écho. Alexandra Ben Saïd.
Pour continuer la réflexion, ce samedi, je reçois un spécialiste de prospective qui a l'oreille de dirigeants et de forces politiques dans le monde entier. Hello Jeremy Rifkin, bonjour.
Bonjour, so nice to be with you.
Vous publiez ce nouvel ouvrage, L'âge de la résilience, c'est aux éditions Les Liens qui libèrent. C'est un récit puissant qui parle autant des énergies fossiles que des progrès de la génétique, du GPS, des salaires. Et ce sont nos 250 dernières années. De ces 250 dernières années, vous dites, c'est fini, ce modèle de développement que vous appelez vous-même l'âge du progrès, c'est terminé.
Yes, it is.
Je crois qu'on se rend compte maintenant que les virus, les pandémies vont continuer. Elles vont même augmenter. Le climat se réchauffe et on se dirige vers une potentielle extinction de la vie. La planète serait en sauvage. Et ce que l'on commence à se rendre compte, c'est que la Terre, la planète, l'hydrosphère, la lithosphère, l'atmosphère, la biosphère est beaucoup plus puissante que nous ne le pensions. Et notre espèce est beaucoup plus petite, moins significative dans la grande image de la vie sur Terre. C'est vraiment une nouvelle prise de conscience de l'histoire. Au cours des 200 dernières années, on a été impliqué dans l'âge du progrès. C'est une idée française, en fait. C'est le marquis de Condorcet qui était en prison en 1794 en attendant de passer à la guillotine pour insurrection. Il a écrit un petit essai et il a dit « Il n'y a rien qui puisse empêcher la perfectibilité de l'être humain. Le progrès sera continu aussi longtemps que la planète existera. » Cette philosophie au centre de l'ère des Lumières a duré pendant deux siècles. Le président Macron vient de faire en septembre une déclaration extrêmement importante à la télévision, un soir à la nation française. Et il a dit, l'ère de l'abondance est finie. Maintenant, il faut se préparer à la sobriété. C'était une courageuse déclaration, mais ça nous a laissé au milieu du guet. Parce que ce qu'il dit vraiment, c'est que l'âge du progrès est maintenant terminé, en train de mourir. Mais ce qu'il n'a pas dit, c'est que il y a un nouveau narratif qui est celui de l'âge de la résilience qui est en train d'émerger.
Jeremy Rifkin, il y a un mot efficience qui est un mot cher aux économistes et aux chefs d'entreprise. Expliquez-nous pourquoi l'efficience est toxique et nous mène à l'urgence climatique.
Si vous savez comment une société organise son orientation spatiale et temporelle, vous savez très bien dans quelle direction va la société. À l'âge du progrès, l'efficience était la valeur primordiale. C'est quoi l'efficience ? C'est extraire de plus grands produits de la planète, encore plus en moins de temps. Et on se demande pourquoi on a réduit la planète à néant. Notre valeur, nos valeurs, c'est qu'on croit que la nature est une ressource passive et qu'elle ne devient valable, ces valeurs, que lorsque on en devient les propriétaires, on les transforme en matière première et crée du capital avec cela. Ce que l'on sait maintenant, c'est que l'âge de la résilience nous dit que l'efficience s'est terminée. La nouvelle valeur, c'est l'adaptation. Et au lieu de l'adapter la nature à nous, il faut que nous nous adaptions à la nature.
nature. C'est comme ça que les autres espèces le font, et c'est comme ça qu'on passe de l'efficience à l'adaptation.
Mais alors, la résilience, la fin de l'abondance, à quoi ça ressemble concrètement? Est-ce que c'est juste la fin du progrès, puisqu'on était à l'âge du progrès? Est-ce que ce sont les douches froides? Est-ce que c'est la baisse du PIB? Est-ce que vous pensez que la croissance sobre, ça existe? Ou est-ce qu'il faut souhaiter la décroissance?
Non.
C'est pas une question d'arrêt de la croissance. C'est la façon dont le concept d'efficience nous permet d'utiliser plus de la planète en moins de temps. Tous les éléments de l'âge de la résilience émergent. Vous savez, moi, je suis de formation un économiste et aussi un anthropologue. Donc j'ai préparé une liste pour ce livre avec tous les changements que je vois déjà dans l'économie et dans notre concept de l'éducation pour la vie. Et je vais vous donner quelques exemples. On parle moins de croissance et plus d'épanouissement. C'est le grand changement. On parle moins du capital financier et la jeune génération parle du capital écologique. On parle moins de productivité chez les jeunes et plus de régénération, moins de PIB et plus de qualité de la vie, moins d'hyperconsommation et plus de recyclage.
Donc ce n'est pas la fin du capitalisme, c'est un autre capitalisme que vous envisagez.
Je parle d'un système économique. Les marchés seront toujours là, mais on va commencer à voir la nature comme un lieu de commerce. L'hydrosphère, l'eau. L'eau ne doit pas être considérée comme une propriété privée. L'eau, c'est la force de la vie, la lithosphère, le sol, la planète, les forêts. Ça ne doit pas être considéré comme des privatisations. Ce sont des communs pour toute la planète, pour toute notre espèce. L'atmosphère doit appartenir à tout le monde, pour toutes les espèces. Si on commence avec l'idée que les grandes sphères de la vie animée nous appartiennent, l'hydrosphère, l'lithosphère, l'atmosphère, eh bien ça doit être plutôt des communs. Au sein de cela, nous pouvons avoir des paramètres économiques différents. Ils seront toujours bons pour le marché, mais ce sera aussi la place pour les réseaux. Il y aura la place pour des entreprises, mais ce sera des PME, des PMI, beaucoup de technologies qui opéreront en coopérative. Et la blockchain, de façon glocalisée, pas globalisée, glocalisée. Donc on verra une économie, un système économique plus horizontal et un système qui devrait être basé sur les communs.
Alors en France, hier, le gouvernement a lancé 22 chantiers de planification écologique. Jérémy Rifkin, est-ce que nos démocraties occidentales, qui redoutent les conflits sociaux, sont les mieux armées pour prendre ce grand virage? Ou est-ce que ce sont les pays autoritaires, comme la Chine par exemple, qui sont les plus capables, à votre avis, d'aller vite pour relever ce défi climatique?
Comme vous le savez, je conseille la Commission européenne et les États de l'Europe depuis 22 ans. Mais aussi, je conseille la République populaire de Chine et son gouvernement et le Sénat américain, M. Schumer. Et ces superpuissances commencent à s'engager dans une grande transformation. Mais ce qui est intéressant, c'est que la tradition occidentale, qui est la tradition abrahamique, le judaïsme, la chrétienté, l'islam, cette tradition met l'accent sur la domination. Dans le livre de la Genèse, Dieu dit à Adam et Ève en les chassant du paradis, « Je vous donne la domination sur tous les animaux et sur tout ce qui vit ». C'est, si vous voulez, le guide de l'Occident. Les êtres humains dominent tout ce qui est vivant. Les traditions asiatiques, le bouddhisme, l'hindouisme, le taoïsme, le confucianisme, ont une idée complètement différente. C'est que les êtres humains font partie de la nature, que nous devons nous harmoniser avec la nature. Nous ne sommes pas séparés de la nature. Est-ce qu'ils ont des défauts, les pays asiatiques? Oui, bien sûr, mais leur ADN est plus préparé à la résilience. Mais bon, c'est la tradition occidentale qui en menait à l'ère romantique, aux Lumières et à l'âge du progrès, qui en développait l'écologie en tant que science. Donc nous, on a mené l'écologie en tant que science et ça nous a permis à commencer à nous rendre compte que notre espèce est totalement partie de la nature. Donc il y a cette tradition européenne de l'écologie qui va nous aider, et la tradition asiatique qui a cette croyance que nous devons nous harmoniser à la nature.
Et les États-Unis, alors on est à moins de 3 semaines des midterms, les élections. Les grands sujets, c'est le pouvoir d'achat, les armes, l'avortement, pas vraiment l'urgence climatique. Et pourtant, les États-Unis, c'est la première puissance économique mondiale et le deuxième pollueur après la Chine. Jérémy Rifkin, est-ce que votre pays est prêt à changer de modèle de développement aujourd'hui ?
Je crois que la génération Z est prête à aller de l'avant, de 18 à 25, 30 ans. Les autres, peut-être pas. Donc, en 2019, on m'a présenté le sénateur Schumer, qui est aujourd'hui le chef de l'opposition au Sénat. Et il m'a demandé, est-ce que vous pouvez nous faire un plan pour la troisième révolution industrielle pour l'Amérique. J'ai travaillé avec lui, je l'ai rencontré une dizaine de fois avec son équipe, avec d'autres sénateurs, et nous avons contribué à un projet de 30 ans sur 18 000 milliards de dollars qui nous amènerait à l'âge de la troisième révolution industrielle et de là à la révolution de la résilience. Malheureusement, tout ce plan n'a pas été mis dans l'infrastructure du plan mis sur la table. Mais il y a un début, donc on va créer une infrastructure de la résilience. Maintenant, c'est problématique. Certains États comme la Californie, l'État de New York et d'autres vont de l'avant. Mais il faut que le reste du pays suive. Et je crois que ce sera la génération Z et les jeunes milléniaux qui vont, lorsqu'ils prendront le pouvoir, mèneront le monde qui sera plus vivable. Et je crois que l'âge de la résilience sera le nouveau narratif pour la nouvelle génération. Et je crois que les jeunes vont passer de l'efficacité à l'adaptation en tant que valeur centrale. Et je crois que les jeunes vont passer de la croissance à l'épanouissement et à la régénération. J'en suis sûr. Est-ce que ça sera à temps? Je ne sais pas. Mais je suis certain que c'est dans cette direction que vont les jeunes.
L'âge de la résilience, c'est aux éditions Les Liens qui libèrent. C'est un autre récit de l'histoire récente de l'humanité qui puise aussi bien dans l'économie que dans les sciences et qui fait réfléchir. Merci, thank you, Jérémy Rifkin.
Always nice to be with you.
C'est toujours un plaisir d'être avec vous. Merci.
Et un grand merci à Michel Zotowski pour l'interprétation simultanée.
On n'arrête pas l'écho. Sur France Inter.
Sandrine Foulon, une question de notre auditeur Grégory ce samedi. Il a 42 ans, il travaille depuis 15 ans dans la même entreprise où il manipule, écrit-il, des colis alimentaires qui pèsent entre 10 et 25 kilos. Grégory travaille en chambre froide à moins 24 degrés et pourtant son compte pénibilité affiche toujours zéro. Comment peut-il récupérer ses points, vous demande-t-il.
Grégory, vous avez beau utiliser un transpalette manuel et manipuler des colis, le port de charges lourdes ne fait plus partie des critères de pénibilité pris en compte pour alimenter le C2P, le compte professionnel de prévention. Emmanuel Macron l'a supprimé en 2017 avec 3 autres facteurs d'exposition, les postures pénibles, les vibrations mécaniques et les agents chimiques dangereux. On oublie le P de prévention dans le C2P, c'est seulement si le port de charges lourdes vous rend malade, Grégory, s'il entraîne une incapacité permanente, que vous avez la possibilité de partir plus tôt à la retraite, en gros, quand le mal est fait. C'est donc malheureusement logique que vous n'accumuliez pas de points sur votre compte. En revanche, ce qui n'est pas normal, c'est qu'il soit à zéro alors que vous êtes dans une pièce à moins 24 degrés, travaillé par des températures inférieures à 5 degrés ou supérieures à 30 pendant au moins 900 heures par an, est l'un des 6 critères reconnus. Il faut demander à votre employeur de régulariser la situation. À défaut, vous envoyez un recommandé au compte personnel de prévention construction à Rennes. Il existe des formulaires types de réclamation sur le site du C2P.
Sandrine, dans les concertations sur les retraites, une meilleure prise en compte de la pénibilité est en discussion. Grégory, peut-il espérer un retour de ces critères supprimés ?
Alors non, ce n'est vraiment pas dans les intentions du gouvernement, Grégory. Les critères supprimés ne vont pas faire leur grand retour. Parmi les pistes sur la table, il y aurait la possibilité de supprimer le plafond des 100 points accumulés pour partir plus tôt en retraite et d'en obtenir plus dans le cas d'une exposition à plusieurs critères en même temps. Ce qui ne changerait pas grand-chose à votre situation, Grégory, sauf si vous travaillez aussi la nuit. Autre option, ouvrir un droit à la reconversion des salariés. Et bien sûr, comme toujours, le gouvernement insiste sur la place de la négociation collective. Sauf que ça fait 20 ans que la pénibilité est un sujet de discorde majeur. En 2003 déjà, pour la réforme Fillon des retraites, le gouvernement avait demandé aux branches de négocier. Le compte pénibilité est arrivé 12 ans plus tard, pour être ensuite amputé de 4 critères sur 10. Il n'y a pas de secret, ce n'est pas une question de complexité du dispositif d'usine à gaz, c'est un problème de gros sous. Le C2P est financé par la branche accident du travail maladie professionnelle de la Sécu, qui est elle-même alimentée exclusivement par des cotisations employeurs. Le jour où le patronat obtiendra la mutualisation des risques, la pénibilité sera sans doute moins pénible à appliquer.
Sandrine Foulon, ma vie au boulot.